Merci, bonjour et merci de nous rejoindre sur France Info pour cette édition spéciale consacrée évidemment aux funérailles de la reine Elisabeth II. France Info sera mobilisée toute la journée pour suivre en direct cet événement. On commence donc avec un info, c'est clair, spécial consacré à ces funérailles avec Esther Lenneman. Bonjour Esther, vous êtes journaliste, vous avez été correspondante à Londres pendant près de 20 ans. Nous sommes également avec Frédéric de Natal, vous êtes rédacteur en chef de la revue Dynastie, donc spécialiste de des arcanes de la famille royale britannique. Et Guillaume Picon, vous êtes historien, auteur de The Queen, Elisabeth II, un destin d'exception. Je vous propose, avant de commencer, on me fait signe que déjà, vous voyez, la Terre entière est connectée sur Londres. Et donc déjà, nous avons un problème de faisceau vis-à-vis de Londres. Esther Lenneman, vous qui avez vécu près de 20 ans à Londres, de voir votre ville, quand on a vécu quelque part... Ainsi assiégé par la terre entière, par tous ces journalistes qui déambulent, d'ailleurs dont certains doivent se perdre dans Londres, ça vous fait quoi? Vous avez envisagé d'y aller?
Oh, j'aurais rêvé d'être là-bas. Effectivement, c'est des moments où on a envie de participer, on a envie d'être présent, on a envie de sentir l'atmosphère, parce que tant qu'on n'est pas sur place, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est normal. Cette femme... Quelqu'un disait c'était le dernier chef d'État jusqu'à il y a 10 jours qui avait porté l'uniforme pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment un morceau de notre histoire. C'est un lien, ça nous rapproche de nos parents, de nos grands-parents. Et elle incarne à la fois la pérennité de l'État, elle incarne notre rapport à nous, à l'histoire, elle incarnait tellement de choses.
Alors voilà, on a récupéré le faisceau. Avec Londres, et on va retrouver notre correspondant Ambroise Boulès. Bonjour, bonjour Ambroise, merci d'être avec nous. Il est 8h30 pour vous ce matin à Londres. D'abord, racontez-nous quel est le déroulé, quel est le programme de la journée, de cette journée.
Eh bien écoutez, depuis 8h ici, depuis 9h heure française, les portes de l'abbaye de Westminster ont ouvert. Les premiers invités peuvent commencer à arriver. Ce sont des invités triés sur le volet, hein, puisqu'il y a seulement entre 2000 et 2200 places disponibles dans l'abbaye de Westminster, parmi lesquelles il y aura quelques 500 très hauts dignitaires internationaux qui sont invités, les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Ensuite, à partir de 11h44, heure française précise, le cercueil quittera le hall de Westminster, où il était exposé, où le public a pu se recueillir pendant 5 jours devant le cercueil de la reine Elisabeth. Et puis, en un peu plus, 11h52, il arrivera à l'abbaye de Westminster. La cérémonie débutera à midi. Elle durera environ 55 minutes et elle s'achèvera par 2 minutes de silence qui seront suivies dans tout le pays. Ensuite, il y aura une procession à travers Londres qui durera une bonne heure. Le cercueil repassera devant le palais de Buckingham et il sera ensuite transféré sur un corbillard pour arriver ici à Windsor. C'est à environ 35 km de Londres et le cortège funéraire passera par les petites routes plutôt que de passer par l'autoroute, ce qui permettra à tous les riverains de saluer le cercueil. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde sur cette route qui attend de devoir passer le cortège funéraire. Enfin, il arrivera ici à Windsor cet après-midi. Ce sera une deuxième cérémonie qui se tiendra au sein de la chapelle Saint-Georges, qui est dans l'enceinte du château de Windsor derrière moi. Cette chapelle, qui est une chapelle du XIVe siècle, qui accueille traditionnellement les baptêmes, les mariages et les enterrements de la famille royale. C'est ici donc que sera inhumée en fin de journée la reine Elisabeth II dans une chapelle mémoriale, la chapelle George VI, aux côtés de son père, de sa mère et de sa sœur Margaret.
Voilà, c'est à Windsor, donc à 40 km à l'ouest de Londres, hein, je crois, que sera enterrée Elisabeth II, là où vous vous trouvez. À Londres, dans le centre de Londres, Ambroise Boulès, il y a, vous l'avez dit, tous les chefs d'État du monde entier, la quasi-totalité. J'entendais le responsable de la sécurité, enfin, où il y a cette comparaison, on dit c'est comme organiser les JO, mais en une semaine. On imagine le casse-tête en termes de sécurité pour garantir la sécurité de tous ces chefs d'État.
Exactement, c'est la comparaison qui revient depuis trois jours. Et puis on a entendu aussi des responsables de sécurité dire que c'était aujourd'hui le dispositif de sécurité le plus impressionnant jamais mis en place au Royaume-Uni. Il y a effectivement tout le quartier de Westminster à Londres est sous cloche depuis hier soir. Il y a eu des contrôles de sécurité énormes. On a vu des policiers vérifier, passer au peigne fin, vérifier y compris les bouches d'égout, voir s'il n'y avait pas du matériel ou des personnes cachées dedans. On l'a vu ici aussi en arrivant à Windsor ce matin, il y a un nombre de policiers très très impressionnant. Il faut dire qu'effectivement il y a plus de 500 très hauts responsables internationaux. C'est décrit comme l'événement diplomatique le plus important à Londres ici depuis des décennies. Alors forcément il y a une sécurité très importante à mettre en place. Et puis le trafic aérien également sera suspendu pendant la cérémonie et les processions pour assurer à la fois le silence au-dessus de Londres pendant ces événements funéraires, mais également la sécurité, bien évidemment, de tous ces chefs d'État et de gouvernement.
Alors, Ambroise Boulès, les invités, les chefs d'État se rendront dans l'abbaye de Westminster à partir de 10h, heure française. Sait-on qui vient, qui ne vient pas? Est-ce qu'il y a des surprises dans la liste des invités?
Alors oui, ce que l'on sait, c'est que il y aura déjà les chefs d'État et de gouvernement de chaque pays du G7. Emmanuel Macron est là, le président Joe Biden, le président allemand, le président italien. Il y a également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'empereur du Japon s'est rendu à Londres. C'est son premier voyage hors du pays depuis son arrivée au pouvoir, il y a un peu plus de 2 ans. Le roi de Norvège, le prince de Monaco, le roi d'Espagne, évidemment, il y a des familles royales du monde entier qui sont présentes également pour cet événement. Les premiers ministres des nations du Commonwealth, le premier ministre canadien Justin Trudeau qui est arrivé il y a 2 jours, le premier ministre australien également, ils ont tous été déjà reçus par Charles III puisque Charles III est leur chef d'État à présent. La première dame d'Ukraine également est invitée, sera présente. C'est à souligner puisque Vladimir Poutine, lui en revanche, n'a pas été invité. Ça l'a rendu furieux. Il a condamné, je cite, une attitude immorale et blasphémique du Royaume-Uni. Il fait partie donc de la liste des pays qui n'ont pas été invités, comme la Syrie ou l'Afghanistan également. Il y a une polémique ici aussi autour de l'invitation, en tout cas de la venue du dirigeant saoudien Mohamed Ben Salman, vous savez, qui est mis en cause dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Il s'est rendu à Londres pour présenter ses condoléances à Charles III, mais il n'était pas clair s'il était ou non invité à la cérémonie. Finalement, il ne devrait pas s'y rendre, mais tout cela a créé un petit peu une polémique ici. On sait que Charles III a toujours été d'une assez grande proximité avec le pouvoir saoudien. Enfin, c'est une surprise. La Corée du Nord, elle, a reçu une invitation pour un de ses représentants.
Eh ben, merci beaucoup, Ambroise Boulay. C'est vrai que là, c'est une surprise que parmi les chefs d'État qui n'étaient pas... alors, on imagine que Kim Jong-un n'ira pas. C'est pas Kim Jong-un qui va y aller. Mais la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Birmanie, la Syrie et la Russie, les chefs d'État ne sont pas confiés. Guillaume Picron, on voit un Vladimir Poutine furieux quand même, parce qu'il a dit que le fait qu'il n'ait pas été invité, c'était blasphématoire et immoral. Ça traduit quoi? C'est une humiliation? Il le prend comme une vexation, le fait de ne pas avoir
furieux,
été invité?
Je pense qu'il est même vexé. Et ce qui est intéressant, parce que vous avez énuméré les pays qui ne sont pas invités. Donc on voit que la Russie, qui est quand même une grande puissance, se trouve
dans le même sac que l'Afghanistan,
ravalée au rang de la Birmanie, l'Afghanistan, la Syrie. Donc on comprend la colère de Vladimir Poutine. Et au-delà, ce qui est intéressant, comme vous l'avez souligné, c'est de noter le vocabulaire qu'il a employé, un blasphématoire et immoral. Donc on voit qu'il cherche à se situer sur le plan d'un côté de la religion, de l'autre de la morale. Et la religion, on voit bien qu'il cherche, c'est une pique qu'il lance à la royauté britannique, puisque la religion occupe une place centrale dans la vie donc politique de la Grande-Bretagne, notamment parce que le souverain britannique
est aussi le chef de la religion
et le chef de l'église anglicane. Donc on voit bien quels arguments Vladimir Poutine essaie de mobiliser, alors à mon avis sans grand effet. Mais ce que ça note, c'est qu'il est terriblement vexé d'avoir été écarté.
Et comme vous le dites, ravalé au rang de Afghanistan, Corée du Nord, Birmanie, Syrie.
Sachant que même à l'époque de la Russie soviétique, si nous nous souvenons des dernières grandes funérailles royales, celle du père d'Elisabeth II, George VI, c'est bien l'ambassadeur de l'URSS était évidemment présent en 1952. Il est vrai que la Seconde Guerre mondiale n'était pas très loin et que la Grande-Bretagne et l'URSS se souvenaient qu'ils avaient été alliés, malgré des désaccords, mais alliés durant ce combat contre l'Allemagne nazie.
Frédéric de Natale, donc il y a les chefs d'État qui sont conviés, il y a aussi des familles royales. Alors, je ne sais pas, le prince Albert de Monaco y sera. On imagine donc qu'il y a vraiment les familles royales, il y a en être ou ne pas en être. Puis après, il faut essayer d'être bien placé. Comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu. Est-ce que dans les familles royales, chacun attendait son carton et de savoir quel allait être le protocole?
Oui, alors juste, je voudrais surréagir à ce que disait Guillaume, une petite aparté. Il faut savoir aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Charles, le roi Charles, en tout cas, quand il était prince de Galles, a pris position publiquement contre l'Ukraine, enfin contre la Russie, pardon, pour l'invasion en Ukraine, et également le prince William. Donc ceci expliquant cela, ça a d'ailleurs généré un gros débat au sein de la famille royale, puisque le prince de Quinte était membre de la chambre franco-russe et a dû démissionner de ses fonctions en raison de cela.
Et que la reine n'a rien dit, tenant à sa position, c'est une question que je pose, tenant à sa position neutralité totale.
Absolument, never explain, never complain. La reine n'a pas pris du tout position. Le gouvernement s'est chargé de le faire pour elle de toute façon. D'un point de vue constitutionnel, la reine ne prend pas position. Alors si elle le fait, c'est de manière très très subtile et parfois ça laisse sujet à polémique. Concernant votre question, effectivement, le protocole, on sait très peu de choses sur comment cela va être. Alors il y a des...
Vous allez le regarder, vous allez dire tiens, le prince Albert, on le voit à peine, Albert de Monaco.
Alors, regardez, je ne sais pas, mais si vous voulez, c'est vrai qu'il y a un protocole qui est très précis. D'abord, la grande question qui va se poser, c'est sur la place de l'empereur Naruhito. Vous savez, les rois
du Japon.
L'empereur du Japon, les rois parlent à Dieu, les empereurs du Japon touchent le ciel du bout des doigts. Donc logiquement, ils sont au-dessus des monarques. Donc là, je pense qu'il va y avoir un protocole qui va être très resserré. Ça va jouer des coudes certainement pour être revu. Et en plus des familles royales, puisque c'est quand même toutes les dynasties d'Europe qui se sont déplacées, ils sont plus ou moins cousins. Vous avez aussi d'autres familles royales qui, elles, ne sont pas régnantes et qui ont été invitées. Alors on peut citer entre autres la maison royale de Roumanie, qui est quasiment un état dans l'état à l'heure actuelle. Vous avez également la maison de Grèce, qui cousine avec Charles, naturellement, puisque son père, je rappelle, était un prince de Grèce. Et puis, vous avez également le tsar Siméon II de Bulgarie, qui est présent, qui est arrivé hier. D'ailleurs, on l'a vu invité chez Charles III. Et pour la petite histoire, il est désormais le dernier chef d'État à avoir connu la Seconde Guerre mondiale.
Alors, retour sur la reine que nous enterrons aujourd'hui, la reine qui ne prenait pas position, vous le rappelez, ou alors de manière très subtile et qui, à sa façon aussi, avait un humour très subtil. Depuis l'annonce de sa mort, chacun en Grande-Bretagne raconte les anecdotes ou les souvenirs qu'il a eus avec la reine Elisabeth II, sujet de Christelle Méral.
Les deux visages d'Elisabeth II. Côté pile, la dame de pique austère, entièrement dévolue à sa tâche. Côté face, la dame de cœur espiègle et son humour pince sans rire. Ceux qui l'ont connue racontent deux anciens premiers ministres, son agent de sécurité et James Bond. Theresa May se rappelle un pique-nique à Balmoral en Écosse où elle fait tomber un morceau de fromage sur le sol devant la souveraine.
I had a split second decision to make. I picked up the cheese, put it on the plate and put it on the table. And I turned round to see that my every move had been watched very carefully by Her Majesty the Queen. I looked at her, she looked at me, and she just smiled.
Et le fromage est resté sur la table. Autre anecdote avec son garde du corps, toujours à Balmoral. Il se promène dans la campagne et croise deux Américains qui ne reconnaissent pas du tout la reine.
And then the American gentleman said to the Queen, "And where do you live?" "Well, she, I live in London, but I've got a holiday home just the other side of the hills." And he says, "Oh, you must have met the Queen." And she says, "Well, I haven't, but Dickie meets her regularly." And then the next thing, he comes up and puts his arm around my shoulder, gives his camera to the Queen, and asks him to take a picture of the two of us.
Daniel Craig, ex James Bond, a aussi bien connu la souveraine.
Good evening, Mr. Bond.
Good evening, Your Majesty.
Ils ont fait cette vidéo devenue culte pour les JO de Londres, où sa doublure saute en parachute. Lors d'une séance photo, elle le taquine sur son air, toujours sérieux.
Oh non, c'est celui qui ne sourit pas. Fort bien.
Une vidéo à l'origine d'un souvenir de Boris Johnson.
I remember... Innocent joy
more than 10 years ago after the opening ceremony of the London Olympics, when I told her that the leader of a friendly Middle Eastern country seemed actually to believe that she had jumped out of a helicopter in a pink dress and parachuted into the stadium.
Une reine qui savait rire aux éclats et manier l'autodérision. C'est aussi pour cela que ses sujets l'appréciaient tant.
Esther Lenneman, ce qui est touchant, c'est que d'habitude, au Parlement, les échanges sont vifs. Et là, on les voit, alors de camps opposés, travaillistes et conservateurs, rire de bon cœur ensemble de leur souvenir de la reine. Est-ce que ce n'est pas cette image d'union nationale ?
Il y a eu quelques séances depuis la mort de la reine où, effectivement, travaillistes, conservateurs, ils étaient tous unis dans l'hommage. Chacun racontait ses anecdotes. Il y avait, par exemple, une députée musulmane qui a terminé son intervention en disant « Voilà la prière des morts que les musulmans prononcent pour la reine ». Donc, chacun y était de son souvenir. Ça a été effectivement un moment d'union nationale incontestable. On a oublié la politique politicienne pendant 10 jours.
Et les Britanniques se délectent depuis 10 jours de ces anecdotes.
Il faut dire qu'elles sont, extraordinaires. Moi, la plus belle que j'ai entendue, moi, personnellement, c'est l'histoire d'un médecin militaire qui avait créé une organisation de charité qui faisait ils organisaient des hôpitaux militaires dans les zones de combat, et notamment en Syrie, et il avait reçu une médaille, une récompense, et donc il avait été invité à déjeuner à Buckingham. Il s'est retrouvé à côté de la reine et il lui racontait ses faits de guerre, et il parlait d'Alep, de cet hôpital à Alep, et puis à un moment... Il a raconté après dans ses souvenirs que sa mère était morte un mois plus tôt, donc il était très, très bouleversé. À un moment, il lui dit « je ne peux plus parler » et il a les larmes aux yeux. Et elle fait venir, elle appelle quelqu'un qui fait venir les chiens. Donc il y a 6 corgis qui arrivent dans la salle à manger, qui se mettent à courir autour de la table. Et la reine, quelqu'un lui apporte une boîte en argent dans laquelle elle sort un biscuit, elle le casse en deux. Elle en donne la moitié à ce médecin militaire, David Knott, il s'appelle. Et il lui demande « je dois le manger ?» Elle dit « non, non, c'est pour les chiens ». Ils ont passé 20 minutes à nourrir les chiens et à papoter de chiens, de choses comme ça. Et à la fin, elle le regarde et elle lui dit « il y a quand même des choses qui se passent mieux sans les mots, vous ne trouvez pas ?» C'est quand même extraordinaire comme histoire. Donc si vous voulez, toutes ces histoires-là remontent à la surface. Chacun rappelle ses souvenirs. C'est un moment comme ça de... Dommage à la fois à la souveraine et à la femme qu'elle a été, à son humanité, à cette finesse qu'elle était capable de montrer.
Et pourquoi les Britanniques sont-ils à ce point en communion avec cette femme ? Qu'est-ce qu'ils enterrent aujourd'hui ? Ils enterrent ses souvenirs, mais ils enterrent... Elle était le symbole de quoi, la reine ? De la grandeur du Royaume-Uni ?
Axel, il faut quand même remettre les choses en place. Il y a quand même un quart des Britanniques qui sont... anti-monarchistes.
Ils ont la pudeur et la décence de ne pas
les entendre. On les entend pas en ce moment, c'est normal. C'est un moment d'union nationale. Donc ils le respectent. Oh, oui, on entend très peu. On entend quelques voix dissidentes, mais assez peu. Ils enterrent quelqu'un qui les a accompagnés toute leur vie. Je sais pas. Ils enterrent quelqu'un qui les rattache à leur passé.
Glorieux.
Ils enterrent une femme qui a fait son métier de façon quasiment irréprochable, qui a su ne pas faire de faux pas, ne pas se laisser enfermer dans des conflits politiques, qui a su rester au-dessus de tout ça et qui a su quand même avoir une certaine influence. Il faut rappeler quand même que la reine, une fois par semaine, reçoit son premier ministre.
Guillaume Picon, aujourd'hui, Londres est la capitale du monde, de l'univers. Hein. Tous les chefs d'État sont à Londres, toutes les caméras sont à Londres. C'est très difficile pour les médias d'y aller parce que tous les faisceaux pour transmettre le signal télé sont saturés. Comme au 19e siècle, avec ses funérailles, Londres est redevenue la capitale du monde, comme au temps de l'Empire. Est-ce que ce n'est pas ça l'ultime cadeau qu'a fait la reine à son peuple aujourd'hui ? Cette fierté d'être britannique. J'imagine qu'ils sont très fiers aujourd'hui, les Anglais.
Oui, mais ce sera fini demain matin.
Ce sera fini demain matin.
Mais oui, mais ce qui est intéressant, c'est de mesurer le règne d'Elisabeth II, donc on le mesure à l'aune de sa durée, et quand on regarde dans le détail, on sait très bien qu'il y a eu, notamment dans ce lien entre la souveraine et ses sujets, qu'il y a eu des moments de désaffection. Hein. Il a été beaucoup question ces derniers temps de rappeler que ses premières réactions à l'annonce du décès de
la princesse Diana
lui avaient été reprochées. mais qu'elle avait très rapidement retrouvé une cote de popularité élevée, comme 5 ans plus tard l'avaient démontré les festivités, les célébrations du Jubilé d'or en 2002. Mais ce que montre aussi cette unanimité à laquelle nous assistons, cette ferveur même... Je n'étais pas à Londres, mais les images que nous voyons, ces gens qui sont prêts à faire la queue pendant 24 heures.
Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Ils savaient qu'ils étaient filmés. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec cette queue de 8 km de 24 heures ?
Ils ont voulu rendre hommage à une personne, et là nous sommes vraiment au cœur de la royauté, à une personne qui symbolise plus qu'elle-même. C'est cette fameuse théorie qui sort tout droit du Moyen-Âge, la théorie des deux corps du roi. Le souverain, il a comme nous tous un corps physique, un corps périssable, qui souffre, qui vieillit, qui meurt, et il y a l'autre corps que symbolise la couronne, qui est l'État. Et ce corps, il ne périt pas. C'est ça, cette théorie des deux corps du roi. C'est comment est-ce qu'on assure la survivance de l'État. Et donc là, vous avez tous les symboles, toute la pompe de la royauté qui incarne cela. Et Élisabeth II, comme ses prédécesseurs avant elle, avait aussi, je pense, cette capacité à être proche de ses sujets, à faciliter ce lien entre un souverain et ses sujets. Et encore une fois, au Moyen-Âge, on parle de lien d'amour. Et quand on regarde la ferveur, encore une fois, qu'ont manifesté les Britanniques, comment ne pas penser à ce mot-là ? Et au Moyen-Âge, l'amour, c'est une vertu politique.
Frédéric de Natal... On parlait de... Oh bah du coup, ça m'échappe. Ce que je voulais dire. Non, mais de la grande... Ah voilà, la grandeur de la reine et par rapport à ces sujets. Et comme pour matérialiser cette idée, tous les chefs d'État sont presque ramenés au rang de sujet. Ils sont invités à prendre le bus. Au tel point qu'il y avait eu des tas de blagues ironiques qui circulaient sur Internet. Joe Biden, ça doit faire bien longtemps qu'il n'a plus pris le bus. Alors, à tel point que lui, on sait qu'il a eu une exception. Mais aujourd'hui, on va s'amuser de voir ces grands chefs d'État habitués à se déplacer avec des limousines et des sirènes hurlantes dans un autobus pour aller rendre un dernier hommage à la reine. D'ailleurs, on va regarder... Qui ne se plie pas à cette règle du bus, mais ça va être l'un des moments forts de cette matinée.
Oui, alors bus. Ça va être peut-être un peu le moment humoristique de la journée. Alors chacun y va. Vous savez, en Angleterre, on aime bien faire des paris. Donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de paris sur ça. On sait déjà, effectivement, comme vous l'avez précisé, que Joe Biden viendra par lui-même, l'empereur du Japon également. On sait que
il prendra pas le bus.
Non, il semblerait que non. Il va venir en voiture avec son épouse. On sait également que le président d'Israël viendra par lui-même. Et a priori également... Emmanuel Macron, qui a cherché à se distinguer, lui-même ne prendra pas le bus et devrait venir en voiture. Alors c'est un petit jeu, mais en même temps, ça démontre également à quel point tout est millimétré, tout est véritablement précis et concis, c'est pas la première fois où c'est déjà arrivé par le passé lors de cérémonies que les maisons royales ou les chefs d'État invités viennent dans les lieux où ils doivent se rendre en bus. C'est assez logique en soi. Et puis je crois que c'est aussi un moment d'humilité, quelque part, pour ces chefs d'État qui ont en face d'eux, en tout cas, ils vont enterrer, moi, ce que je dis, ils enterrent l'histoire avec un grand H, tout simplement. Voilà. Et donc, venir comme ça, simplement saluer la reine, je trouve que c'est un beau geste et puis c'est historique.
Et Stella Lehmann, d'ailleurs, les premiers ministres britanniques sont volontiers, un peu fantasques, etc. Parce qu'il y a toujours l'impression qu'au-dessus d'eux, il y a la reine.
Bien sûr.
Et ils sont toujours... Ils sont moins monarchiques et présidentiels que nos présidents à nous.
Bah évidemment, puisque le chef de l'État, c'est pas eux, c'est le monarque. Et eux, ils sont de passage, ils représentent un parti politique, ils ont été élus, mais ils ne représentent pas l'État. Et c'est la grande difficulté du rôle du président de la République française ou du rôle du président américain, qui doit à la fois gouverner et régner. C'est très compliqué. Mais je voudrais simplement rebondir rapidement sur ce que disait...
Sur le bus.
Il y a deux raisons qui ont été données. La première, c'est qu'effectivement, pour des raisons pratiques, ça va beaucoup plus vite de décharger un bus que de faire venir des limousines les unes après les autres. Et la deuxième est l'écologie. Et il faut se souvenir que le roi Charles, l'ancien prince de Galles, est depuis toujours très, très impliqué dans l'écologie.
Alors justement, le roi Charles a désormais les charges de faire vivre cette monarchie. Quel type de roi sera-t-il ? Comment les Britanniques jugent-ils ses premiers pas ? Eh bien, je vous propose de voir ce sujet d'Ambroise Boulès et Charline Madini.
Les gestes d'un nouveau souverain britannique n'ont jamais été autant exposés aux caméras. Charles III le sait bien, et depuis une semaine, il tient à se montrer proche de ses sujets, multipliant les bains de foule comme cet après-midi à Cardiff. Dès le premier jour de son règne, il a fait arrêter sa voiture devant les grilles de Buckingham, s'est même laissé embrasser sur la joue.
Je pense qu'il va faire du bon travail. Il a très bien démarré.
Il a beaucoup appris de sa mère.
Dès son premier discours de roi, il a convaincu beaucoup de Britanniques dans son nouveau rôle.
Je renouvelle la promesse de ma mère de servir toute ma vie.
À l'âge où l'on savoure généralement sa retraite, Charles aborde la fonction la plus importante de sa vie. Et il ne compte pas être un roi fainéant. En gage de modernité, Charles III a tenu à faire entrer les caméras dans l'immuable cérémonie d'accession au trône. Au risque de s'exposer aussi dans des moments d'agacement, comme avec un huissier qui semble mettre trop de temps à déplacer les stylos, ou quelques jours plus tard, cet autre stylo-plume qui a le malheur de fuir. Des attitudes parfois perçues comme celles d'un homme déconnecté des réalités.
Il est plutôt apprécié maintenant. Mais il faut voir comment cela va évoluer. Dans un contexte difficile pour tout le monde, les privilèges de cet homme et toutes les dépenses de son couronnement pourraient être mal accueillis par le public.
Charles III entame son règne avec l'énorme fardeau d'être à la hauteur de sa mère.
Alors Esther Lenneman, pourquoi ces gestes d'agacement parce qu'une table n'a pas été débarrassée assez vite ou parce qu'un stylo fuit ont-ils été autant commentés comme si c'était la manifestation de ce que le Charles III a toujours vécu entouré de domestiques et de valets.
C'est évident. Mais il y a toujours un décalage entre la couverture par les médias britanniques et par les médias français. Nous, on va chercher systématiquement la petite bête, on la monte en épingle parce qu'on a du mal à comprendre cette monarchie qui représente des principes que nous, auxquels on a coupé la tête en 1793, en gros, pour dire clairement. Donc, moi, je sais que quand j'étais à Londres, j'avais régulièrement des rédacteurs en chef qui essayaient de me faire trouver quelqu'un qui était opposé à la monarchie parce qu'il fallait montrer que tous les Britanniques n'étaient pas monarchistes. Ce qui est vrai, donc on le revient. Mais donc, la monarchie incarne des principes qui nous sont tellement étrangers qu'on a tellement de mal à comprendre le principe dynastique. Pourquoi est-ce que c'est Charles qui hérite et pas William qui est plus jeune, qui est plus beau? Parce que c'est un principe dynastique, vous êtes le fils aîné de votre mère, donc c'est vous qui portez la couronne. Maintenant, pour revenir à votre question, bien sûr qu'il a grandi dans le luxe et qu'il a quelqu'un qui lui repasse ses lacets.
C'est ce qu'a dit le New York Post.
Mais ça, on le sait, les Anglais le savent depuis toujours, oui, on lui repasse ses lacets. Ses billets de 5 livres. Mais rappelez-vous,
il se déplace avec sa lunette de toilette, il a
perdu sa mère il y a 10 jours. Mettez-vous à sa place. Il n'a pas le droit de vivre son deuil tranquillement. Il est obligé d'être en parade, en permanence, d'emplir des obligations, d'aller embrasser des gens qu'il ne connaît pas, de se laisser embrasser. Il fait un effort. Alors, il y a des moments, effectivement, où il pète un câble. Moi, je trouve ça compréhensible.
Oui, mais Frédéric Donatel, à l'heure des réseaux sociaux, de l'exemplarité, des vidéos, des caméras qui vous suivent partout, est-ce que ça ne va pas être un exercice plus compliqué qu'il y a un siècle que de garder une image monarchiste et au-dessus de la mêlée de cette royauté, de cette famille royale?
Vous savez, je crois que tout le monde a son caractère. Donc le prince Charles a le sien. Après, effectivement, comme disait Esther, on a un peu tendance en France à monter en épingle beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, on a discuté de ces fameux bad habits, vous savez, ces mauvaises habitudes qu'il a.
C'est le New York Post, donc un tabloïd qui les a sortis.
Alors, oui et non. En fait, ça date de 2015. C'est un reportage de la BBC. Et celui qui a sorti ça, en fait, c'est le ci-devant Paul Burrell, qui est l'ancien majordome de Lady Diana et qui, quand même... beaucoup de recherches de célébrités, qui a été accusé de vol, notamment il recopiait les lettres de Diana pour les vendre aux plus offrants. Bon, c'est quelqu'un qui a fait aussi les joies des tabloïdes pour sa vie privée. Bon, je ne suis pas forcément sûr qu'il faille tout prendre à la lettre, en tout cas en polémiquer à ce point. D'autant plus qu'effectivement, il vient de perdre sa mère, il est un peu logique qu'il soit sous tension. Ça fait 10 jours où il est quand même partout à la fois et puis incarné une monarchie. Alors même s'il a été véritablement préparé, on peut au moins lui chercher cette excuse et cette excuse du caractère. En même temps, je vais vous dire, vous avez un stylo qui fuit. Est-ce que vous ne seriez pas énervé d'avoir de l'encre sur les doigts? Je pense que c'est humain. Et c'est ça aussi qui rapproche finalement la monarchie du peuple. C'est qu'elle est humaine en soi. Vous avez le sacré et vous avez l'humain. Et en l'occurrence, Charles rassemble tout cela à l'heure actuelle. Il a été à très bonne école. Sa mère l'a très très bien élevé là-dessus.
Estelle Henneman, il y a eu, alors c'est un sondage de mai dernier. Quelle est votre personnalité préférée au sein de la famille royale? Le prince Charles n'arrivait qu'en sixième position. Il n'y avait que 14% des Britanniques qui le citaient. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'embêtant ou pas?
Alors, bien sûr, bien sûr. Je crois que la première leçon qu'on doit tirer de ce qu'on est en train de voir depuis 10 jours et qu'on va voir toute la journée, c'est que pour eux, une institution ne peut survivre que si elle sait se mettre en scène. Et il faut reconnaître, leur tirer notre chapeau, ils se mettent en scène de manière remarquable. Donc effectivement, oui, la monarchie ne peut survivre que si elle est populaire. Mais en même temps, le prince Charles n'est pas élu. Il n'y aura pas dans 4 ans des gens pour aller voter, oui, non, est-ce qu'on veut le garder comme roi? Il est roi par un principe qui est non démocratique. Il est roi parce qu'il est le fils d'une reine.
Alors qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qu'il faut qu'il surveille? Sa popularité, mais vous me disiez en même temps, il peut s'asseoir dessus, il est non élu, il restera roi. C'est qu'on, il y a un désintérêt.
Un désintérêt ou de vrais troubles sociaux qui amèneraient à remettre en cause les institutions. Mais enfin, il faut des troubles sociaux importants. Le grand danger actuel, c'est l'éclatement de l'Union. C'est que l'Écosse fasse un référendum et vote pour son indépendance, ce qui l'empêchera pas de rester au sein du Commonwealth. Qu'effectivement, en Irlande du Nord, ils votent pour la réunification avec l'Irlande.
Ben justement, je vous propose que nous allions prendre la température à nouveau à Londres, alors vous êtes à Westminster. Bonjour Lise Vogel. Tout d'abord, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a déjà des invités qui commencent à arriver à l'abbaye?
Oui, en effet, les premiers invités ont commencé à arriver à partir de 9h ce matin. Et puis là, on attend les prochains temps forts de cette journée historique. Il y aura notamment la cloche principale de cette abbaye de Westminster, qu'on appelle ici la Tenor Bell, qui résonnera une fois par minute, 96 fois, donc durant 96 minutes avant le début de la cérémonie. 96 sons de cloche, évidemment, pour rendre hommage à la vie d'Elisabeth II. Et puis, la cérémonie en elle-même, elle commencera à midi lorsque tous les invités seront là, des invités triés sur le volet. Ils seront 2000 à pouvoir s'asseoir dans cette abbaye de Westminster pour assister à la cérémonie. Et parmi eux, on le sait, il y a des centaines de chefs d'État, de dignitaires, de diplomates, de têtes couronnées et bien sûr la famille royale au grand complet. À l'issue de cette cérémonie, il y aura un autre moment très important pour les Britanniques. Ici, ce sont les 2 minutes de silence qui seront observées à travers tout le royaume. Et puis ensuite, une grande procession emmènera le cercueil de la reine Elisabeth II à travers les rues de Londres jusqu'au Wellington Arch, où elle sera alors transférée dans un corbillard d'État qui l'emmènera vers le château de Windsor, où il y aura d'autres cérémonies un peu plus tard dans la journée avant son inhumation.
Lise, nous parlions à l'instant de Charles III, du roi Charles III et de sa popularité. Alors qu'en pensent les Britanniques et comment sont jugés ses premiers pas de roi?
Eh bien, écoutez, comme je suis ici depuis une semaine, j'ai eu largement l'occasion de discuter de ce sujet avec les Britanniques. Alors, ils sont assez unanimes parce qu'il y a quand même un moment de grande unité dans ce temps de deuil pour la reine Elisabeth II. Donc, les Britanniques disent à chaque fois que le roi Charles sera un excellent roi, que ses premiers pas sont vraiment très rassurants. Les personnes auxquelles j'ai pu parler m'ont notamment dit qu'elles avaient apprécié le juste équilibre qu'a pu trouver Charles III entre quelque chose de l'ordre de la solennité, une forme de gravité, comme s'il avait tout de suite très bien investi ce costume de roi. Mais dans le même temps, il y a eu des grands moments d'authenticité, de proximité. Les gens ici ont notamment apprécié que le roi, malgré son deuil, vienne très souvent au contact du public, serre des mains, prenne le temps de discuter avec ses sujets. Ils ont aussi beaucoup apprécié l'hommage télévisé du roi Charles III à sa mère, et notamment lorsqu'il a eu ces mots, My darling mama, ma très chère maman, ça a vraiment touché profondément le cœur des Britanniques. Certains m'ont aussi dit que ça n'était pas gagné, parce qu'on se souvient des années Diana où le roi Charles, à l'époque prince de Galles, était un peu plus impopulaire. Et puis il y a eu ensuite son remariage avec Camilla en 2005. Là aussi, ça n'était pas gagné d'avance, le fait de pouvoir rester, enfin, ou du moins retrouver l'affection de son peuple. Mais là, ces derniers jours, vraiment, toutes les personnes ici me disent que le couple royal est à la hauteur de cet événement et qu'ils ont confiance.
Voilà. Merci beaucoup, Lise Vogel, pour votre témoignage donc, depuis Westminster. Puis on vous retrouvera tout à l'heure pour nous raconter l'arrivée des invités. Guillaume Picon, donc on le voit, un roi Charles III, premier pas réussi en Grande-Bretagne, populaire, enfin en tous les cas qui monte dans le cœur des Britanniques. Et alors en France, sondage quand même, moi j'ai été surpris, sondage Le Figaro, la France qu'on décrit volontiers républicaine, popularité de la reine Elisabeth II, 85%, mais Charles III, 55%, de quoi faire pâlir nos hommes politiques finalement. Nous aussi, nous devenons attachés à cette royauté britannique.
Alors, un sociologue avait eu il y a quelques années cette formule à propos de la société française. Les Français sont attachés à l'égalité et voire réclament l'égalitarisme, mais ils sont également attachés aux privilèges. Et vous savez également que...
C'est De Gaulle qui avait dit « On est tellement passionné d'égalité que chacun doit avoir son privilège. »
Exactement. Hein. Et par ailleurs, la Ve République, qui remonte à 1958, très tôt, les politologues l'ont qualifié de monarchie républicaine. Ouais, donc on voit bien qu'il y a au sein de la société française ce paradoxe ou cette nostalgie. Je ne sais pas exactement comment la qualifier. Par ailleurs, concernant le nouveau roi Charles III, il a eu l'occasion... De se rendre en France à plusieurs reprises, j'entends dans le cadre de visites officielles, notamment lors des célébrations du jour du débarquement. Et à chaque fois, il s'exprime en français, puisqu'il a une qualité commune au moins avec sa mère, c'est de parler français. Et ce sera sans doute le dernier des souverains Windsor à parler français.
Et ben vous savez quoi, Guillaume Picon, on a pour vous, spécialement pour vous, nous sommes allés dans les archives de l'INA et on a retrouvé Charles III en Normandie parlant français. On regarde le sujet que vous avez teasé, en quelque sorte, Maud de Bohan et Émilie Déramé.
De la constance, le fils aîné d'Elisabeth II en a fait preuve en Normandie. En témoignent ces images de 1987. Le couple princier visite le musée de la tapisserie de Bayeux. Charles et Diana rendent hommage à un lointain ancêtre, Guillaume le Conquérant. Grand succès auprès des habitants, auxquels Sa Majesté s'adresse en français. Un lien familial renforcé par des liens étroits entre deux nations. À maintes reprises, le prince Charles représente son pays aux commémorations du 6 juin, comme ici à Ranville, en l'an 2000.
De retour en Normandie et en ma qualité de colonel en chef du Parachute Regiment, une joie particulière que de m'y retrouver sur le lieu même d'un des hauts faits de la 6e division aéroportée.
Frédéric Natal, il a quand même un moins bon accent que sa mère, ouais. Charles III.
Oui, c'est vrai tout à fait. Mais enfin, il parle français. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on est un petit peu attaché à cette maison royale, qu'on s'est approprié dans nos maisons. Maintenant, comme effectivement l'a dit Guillaume très bien, il est le dernier membre de la famille royale à parler véritablement français, puisque William a lui-même reconnu en 2016 lors d'une interview qu'il ne parlait absolument pas du tout cette langue. C'était très compliqué pour lui. Ce qui peut paraître quand même un peu contradictoire quand on sait que, par exemple, il a quand même il est quand même bête bientôt le roi, un jour, ou en tout cas le souverain du Canada, où vous avez une partie francophone très importante, et donc il va bien falloir qu'il s'exprime en français, il va donc falloir qu'il apprenne à un moment donné cette langue, qui est anciennement d'ailleurs langue diplomatique, je le rappelle, avant que l'anglais ne finisse par le supplanter. Ça marque aussi la fin d'une époque, quelque part, si vous voulez. Voilà.
C'est ça qu'on enterre avec la reine Elisabeth II aussi. C'est cette grande amie de la France, comme l'avait qualifiée Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Esther Lenneman, est-ce qu'on n'est pas aussi fasciné ou intéressé par ce qui se passe de l'autre côté de la Manche ? Parce qu'on sait très bien, le Royaume-Uni, c'est notre frère ennemi ou notre meilleur ennemi ou notre pays miroir depuis toujours. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous disiez pendant ces 20 années quand vous viviez à Londres ?
J'avais un de mes collègues qui disait c'était le pays où on avait le plus haut rapport entre l'exotisme et la proximité géographique. C'est vrai que c'est un pays qui est tout proche et qui fonctionne très différemment du nôtre.
Et qu'on a toujours eu depuis des siècles en face de nous.
Et qui est effectivement... Et alors c'est encore plus grave de l'autre côté parce que quand vous êtes en Grande-Bretagne, évidemment sauf maintenant avec l'avion, mais avant l'avion, peu importe le pays où vous vouliez aller, soit vous preniez le bateau, soit vous passiez par la France. Vous arriviez en France avant d'aller en Espagne, en Allemagne. Donc pour eux, la France, c'est la porte du monde. Et c'est une porte qui était à la fois enviée, jalousée, en même temps méprisée. Enfin, ça a toujours été un rapport très, très compliqué.
Finalement, cette relation spéciale, les Britanniques disent l'avoir avec les États-Unis, mais est-ce que ce n'est pas avec la France qu'ils l'ont aussi ? Guillaume Picon.
Alors, les États-Unis, ce sont les anciennes colonies, donc on comprend bien les tensions qu'ils
peuvent avoir. Mais même histoire avec la France, même nombre d'habitants, même souvenir de l'Empire,
ces siècles. En fait, la guerre de Cent Ans ne doit pas projeter sur notre époque une image trompeuse.
C'est l'entente cordiale maintenant.
D'une part, et n'oublions pas que jusqu'au XVe siècle, de part et d'autre de la Manche, à la cour du roi, c'est la même langue qui est parlée, qu'on appelle le vieux français, qu'à l'époque, les gens appellent le roman, par opposition au latin, donc qui était la langue des premiers écrits en langue vulgaire qui a donné le mot roman. Donc il y a vraiment, pour moi, le patrimoine commun qui peut unir est plus important que celui qui peut diviser. On oublie qu'il y a eu un traité de libre-échange très important signé sous le Second Empire en 1860, le traité Camden-Chevalier, dont les accords ont perduré jusqu'à la fin du 19e siècle. Et n'oublions pas que lors d'une des heures les plus tragiques de l'histoire de France, la défaite de 1940, il y a un projet, De Gaulle revient de Londres dans un avion affrété par Churchill avec un projet d'union entre les deux États. Ça a été complètement occulté au profit justement d'arguments visant à démontrer que finalement l'ennemi héréditaire et intemporel de la France, la Grande-Bretagne. Je pense qu'il faut nuancer ce cliché.
Esther Lenneman, ces bisbilles, voire ces querelles avec une Liz Truss incapable de dire si Emmanuel Macron est un ami et un ennemi, comment les avez-vous analysées? Voilà. Comme un fossé qui dangereusement s'élargit entre la France et le Royaume-Uni, ou des chamailleries de frères jumeaux qui ne cessent de se piquer, de se picoter depuis deux siècles.
Je pense que si on parle politiquement, maintenant, c'est la Grande-Bretagne et l'Europe. C'est plus la France. Et que là, Liz Truss était en campagne électorale, dans un système électoral absurde qui fait que vous avez 160 000 vieux Anglais qui choisissent non seulement le leader de leur parti, mais
les sympathisants du Parti conservateur.
Les militants du Parti conservateur qui, du coup, choisissent non seulement le leader de leur parti, ce qui est grand bien leur fasse, mais qui du coup devient Premier ministre automatiquement. Et dans le cadre de cette campagne électorale, les militants, on le sait, sont toujours plus extrêmes que les électeurs. Donc elle a fait une campagne très à droite. Quel type de Premier ministre elle sera, on n'en sait rien. C'est un mystère, Liz Truss. Il faut rappeler qu'avant le référendum sur le Brexit, elle était contre le Brexit. Que depuis que le Brexit a été voté, elle est devenue l'une de ses défenseurs les plus virulentes. Donc, c'est un mystère, Liz Truss.
Et que dans sa jeunesse, elle a même été républicaine, contre la monarchie.
Absolument.
Elle avait
19 ans.
Bon, elle a changé d'opinion depuis. En tous les cas, aujourd'hui, on enterre la reine Elisabeth II. Il y a 25 ans, pas jour pour jour, mais c'était le 6 septembre 1997, donc il y a exactement 25 ans, dans la même abbaye de Westminster, eh bien, les Britanniques pleuraient la princesse Diana. C'était évidemment une cérémonie très émouvante sur fond d'Elton John, hein, Candle in the Wind, que Elton John avait joué dans le piano de l'abbaye de Westminster. Là encore, on a rouvert les archives de l'INA. Retour sur cette journée du 6 septembre 1997.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
On a beau dire, Esther Lenneman, les Britanniques, ils ont le sens des cérémonies. Franchement, moi, j'ai la chair de poule, là. Rien qu'en revoyant...
C'est les maîtres du théâtre public. Enfin, c'est extraordinaire. Ils savent faire ça mieux que personne.
Et avec, on parlait de la grandeur du Royaume-Uni, un soft power, parce que, pardon, mais ils ont Elton John. Nous, on mettrait qui Non, mais ils ont des artistes mondialement connus qui font que Candle in the Wind, ça résonne et ça fait frissonner la terre entière.
Et rappeler quand même que c'est une chanson qui a été écrite pour Marilyn Monroe et adaptée au moment de la mort de Diana.
Vous étiez correspondante
à... J'étais correspondante, on a fait une journée d'antenne entière. On a tout basculé, on a tout cassé.
Donc ce que vivent aujourd'hui les correspondants pour la reine Elisabeth, vous l'avez vécu ?
On l'a vécu avec la mort de Diana. La différence, si vous voulez, c'est que Diana, c'était de l'émotion pure, la princesse des cœurs. Mmh. Hein. Alors que là, il y a aussi un fondement institutionnel, politique et historique. Diana, c'était vraiment que du... Il y avait un côté people, il y avait un côté émotion. Il y avait ce côté-là qu'on trouve aujourd'hui ici, mais avec autre chose.
Et ça, Frédéric de Natal, c'est ce que la reine, d'ailleurs, n'avait pas saisi. Le côté émotion pure et le côté cette princesse fauchée dans la fleur de l'âge.
Oui, alors après, je pense qu'il faut beaucoup nuancer les choses concernant l'attitude de la reine d'Angleterre au moment où Lady Di est décédée. D'abord, je rappelle qu'elle...
Mais ça lui a été beaucoup reproché à l'époque. Alors,
absolument, tout à fait. Mais on va remettre les choses un peu dans leur contexte. Il ne faut pas oublier une chose. D'abord, Lady Diana n'était plus membre de la famille royale depuis son divorce. Et la reine d'Angleterre ne faisait qu'appliquer simplement le protocole. C'est-à-dire qu'elle partait du principe que ce n'était pas une affaire d'État. Certes, une tragédie qui a mobilisé effectivement l'émotion britannique à un paroxysme rarement inégalé, puisque, comme l'a dit effectivement Esther, c'était la princesse des cœurs, elle était très aimée, et puis tout le monde suivait le feuilleton Charles, Lady Diana à la télé, parce que chacun y allait de son laïus en interview. Mais pour la reine Elisabeth II, c'était quelque chose qui ne devait pas être public, c'est devait être privé. Elle n'était plus membre de la famille royale. En plus de ça, la reine Elisabeth II, la première chose auquel elle a pensé, c'est pas forcément les funérailles ou ce que le peuple anglais allait vraiment... comment la manière dont il allait le ressentir. C'est plutôt protéger ses petits-enfants. William a 15 ans, Harry en a 13. Ils apprennent la mort de leur mère. Ils sont donc des adolescents, avec tout l'extrême que cela peut comporter à cet âge-là. C'est très dur, donc elle les a...
Est-ce que vous diriez que Harry, d'ailleurs... reste un écorché vif et que au fond
oui
Esther Lenneman
tout à fait.
Il l'a dit lui-même, il a dit que le souvenir de, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont suivi le cercueil de leur mère à pied parce qu'il y avait donc le prince Philippe, le prince Charles de l'époque et puis les deux jeunes garçons, et il dit qu'il en est resté traumatisé pour le restant de ses jours.
Oui, il court après les fantômes de sa mère, hein, de toute façon, c'est ça. Je pense que toute sa vie, il ne pourra jamais se remettre, finalement, de ce traumatisme. Puis rendez-vous compte, à 13 ans, on vous apprend que votre mère est décédée d'un accident, dans des circonstances qui n'ont jamais été véritablement élucidées. Donc reste encore tout ce mystère autour. Il ne saura jamais véritablement comment aider et décéder sa mère. Et puis, au fur et à mesure qu'il a grandi, on a bien vu ses attitudes. On voyait bien qu'il y avait un problème. Alors, je ne sais pas si le terme psychologique ça peut s'appliquer là, mais c'était un petit peu ça. C'est un cadet aussi. Il a la position de cadet, il ne faut pas l'oublier. Donc il n'est pas forcément privilégié, forcément entouré comme l'a été William. Par contre, il avait un contact avec sa grand-mère qui était assez extraordinaire.
Est-ce que les Britanniques ont tourné la page de Lady Diana, ils en ont fait leur deuil et ils ont accepté Camilla comme étant leur reine?
Oui, absolument. Alors déjà, il faut savoir que récemment, vous savez, il y a eu les 25 ans de la mort de Lady Diana. William et Harry ont commémoré, je crois, une statue et ils ont annoncé que pour eux, c'était terminé. Ça ne serait plus public, mais ça demeurerait privé. Donc on a déjà une page qui se tourne à ce niveau-là. Camilla a été vue, si vous voulez, comme la méchante marâtre. De l'histoire, sur qui ont pointé le doigt. Bon, vous savez, elle connaît Charles depuis les années 70. Hein. Il paraît qu'elle aurait abordé Charles en lui disant « Mon arrière-grand-mère a été la maîtresse de votre arrière-grand-père », ce qui est exact, puisqu'elle descend d'Alice Keppel et, en l'occurrence, qui était la maîtresse d'Édouard VII, donc l'ancêtre de Charles, le roi Charles. Ça a été un mauvais mariage, un mariage arrangé avec Lady Diana Spencer. Il fallait trouver quelqu'un. On dit que c'est la reine-mère qui aurait choisi Lady Diana pour diverses raisons généalogiques, etc. Bon, ça a duré 11 ans, ça a accouché de deux héritiers au trône. C'est pour le côté
ça, c'est pas un conte de fées. Hein.
Non, c'est pas un conte de fées. Alors, on l'a vendu comme un conte de fées, mais il faut, de toute façon, qu'on vende ce genre de mariage comme un conte de fées, comme on a vendu le mariage d'Harry et Meghan Merkel comme un conte de fées, alors que ça n'est nullement un conte de fées en soi. Mais la monarchie a besoin de ça parce qu'elle a besoin de faire rêver. En faisant rêver, elle se maintient dans son socle et elle devient pérenne et elle est intemporelle. Bon, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez, Camilla a dû affronter effectivement le regard des Britanniques, mais elle a eu finalement cette capacité à s'adapter très rapidement au protocole, ce qui n'a pas été le cas d'autres personnes au sein de la famille royale, et elle a pris également des engagements que les autres membres de la famille royale ne voulaient pas. Et elle s'est tellement engagée qu'elle a fini par apparaître indispensable, et aujourd'hui, oui, en plus le fait que la reine d'Angleterre la désigne peu de temps avant sa mort ouais. comme future reine consort, ça veut dire...
En juin dernier hein.
Alors, en juin dernier, effectivement, pour le jubilé de la reine, et c'est là, à ce moment-là, que, en fait, la transformation s'est faite. Vous savez, le vilain petit canard est devenu un signe pour les Britanniques, et aujourd'hui, elle est largement acceptée par les sujets de son mari.
Guillaume Picon, ça vous a frappé, d'ailleurs, dans le premier discours du roi Charles III, qui venait, donc son premier discours de roi, il a cherché à faire l'unité dans sa famille. Ouais. Il a beaucoup parlé de sa mère, il a parlé de ses deux enfants, il a rendu hommage à Harry, avec qui on le savait en froid.
Ce que vous dites est très juste et très intéressant. J'ai lu de près ce discours et je me suis intéressé au mot qui revenait le plus souvent. Le mot qui revient le plus, 6 fois, je crois, c'est « family ». Donc, la volonté du roi, c'est de recréer l'unité familiale et sans doute une unité familiale resserrée par rapport à la situation qui existait au temps d'Elisabeth II. Il y a des membres de la famille royale dont on entendait pas beaucoup parlé ou qu'on connaissait peu en France, qui jouent un rôle très important en termes de représentation, notamment le duc de Kent, qui était le fils du plus jeune des frères de George VI. Et on a le sentiment que le nouveau roi Charles III entend, comme c'était le cas, mettre à contribution, si je puis dire, la famille royale dans les différentes missions de représentation. N'oublions pas que la fameuse expression « the firm » à propos de la famille royale, est attribué au souverain George VI. Et par ailleurs, on a vu que lors des différents hommages rendus à la reine décédée à Westminster Hall, Charles III a voulu, de façon claire et nette, réaffirmer cette volonté d'unité en autorisant son frère Andrew et son fils cadet Henry à porter l'uniforme.
Oui, alors ça a choqué beaucoup de monde, d'ailleurs, de voir Andrew avec l'uniforme alors qu'il a été banni.
Il a été dans la marine pendant des années. Enfin, l'uniforme, effectivement, il n'y a pas que les titres officiels. Mais vous savez, juste pour terminer rapidement, vous parlez de réunification. La première chose que le roi Charles III a faite, ça a été d'aller en Écosse, en Irlande du Nord, au Pays de Galles. Donc, si on parle de réunification symbolique, son rôle, c'est aussi ça. C'est d'essayer de maintenir le royaume...
Eh bien justement, maintenir le royaume unifié, je vous propose de regarder ce reportage qui a été fait lors du déplacement du roi Charles III en Irlande. Un déplacement pas facile parce qu'il y a évidemment un lourd passif entre les catholiques indépendantistes et la Grande-Bretagne incarnée par sa famille royale. Sujet de Gian Benzina et Julien Pelletier.
Une foule compacte ovationne son nouveau roi. Pour sa première visite en tant que souverain en Irlande du Nord, Charles III a été accueilli chaleureusement. De longues minutes au contact du public, puis traversée de Belfast, applaudie par des Nord-Irlandais attachés à la monarchie. Mais ici, l'unanimité est seulement de façade, car la couronne continue de diviser après des années de conflits armés. À Belfast, de grands murs séparent encore certains quartiers républicains opposés à la monarchie, des quartiers unionistes loyaux à la couronne. Comme celui de Shankill, où, sous la fresque de la reine Elisabeth, les habitants viennent se recueillir.
J'ai écrit « Reposez en paix, notre si belle reine ».
En tant qu'unioniste d'Irlande du Nord, la monarchie est chère à mon cœur. La reine nous représentait tous, j'espère que Charles fera de même.
Mais quelques mètres plus loin dans ce quartier républicain, la visite du roi n'est même pas un sujet de conversation. Pas question de reconnaître le nouveau souverain.
Non, ce n'est pas mon roi et ce n'était pas ma reine. Non, non.
Dan Murphy est le porte-parole d'un parti farouchement anti-monarchique.
Nous pensons que les rois, les reines, ne devraient pas exister au XXIe siècle. C'est une institution archaïque que l'on voudrait abolir immédiatement.
Oui,
Esther Lenneman, qu'incarne-t-elle la royauté britannique pour ces indépendantistes catholiques?
L'ennemi. Elle représente l'armée britannique, elle représente les années d'occupation, elle représente l'occupation anglaise de l'Irlande qui a duré des siècles, qui s'est terminée.
Il y a un ressentiment presque, disons le mot, colonial quand on est en Irlande du Nord.
Évidemment. C'est pour les Irlandais, la réunification, enfin la réconciliation s'est faite quand les deux pays faisaient partie de l'Europe et qui se sont retrouvés dans des relations apaisées. Mais évidemment, c'est l'ancien colonisateur, et il a été un colonisateur brutal. Ça a été une colonisation sanglante. Et donc, effectivement, il y a un ressentiment. Mais il faut quand même rappeler que, pour l'instant, les républicains, même en Irlande du Nord, sont encore minoritaires, même si le Sinn Féin, aujourd'hui, est à la tête du gouvernement. Le Sinn Féin, qui est la branche politique de l'IRA. Il faut aussi rappeler qu'il y a quelques années, la reine a serré la main de Martin McGuinness. Martin McGuinness, qui était le numéro 2 du gouvernement d'Irlande du Nord et qui était un ancien responsable militaire de l'IRA.
Guillaume Picon, le roi Charles III est roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Est-ce que l'une de ses craintes, c'est de léguer à son fils le titre de roi de Grande-Bretagne? Point à la ligne.
Sans doute, et même une crainte supplémentaire, c'est-à-dire que
la réunification,
c'est que le fameux, puisque le Royaume-Uni s'est constitué en deux étapes. Vous avez en 1707, un premier édit d'union qui établit l'union entre l'Angleterre et l'Écosse, et puis en 1800, vous avez l'union entre le Royaume-Uni d'Angleterre et d'Écosse et le Royaume d'Irlande. Et donc peut-être que même que Charles III a une crainte supplémentaire à l'aune de ce projet de référendum sur l'indépendance de l'Écosse dont on entend parler, c'est que véritablement l'Écosse aille plus avant dans un processus d'indépendance. Mais n'oublions pas par ailleurs dans quel contexte a été réalisée l'union entre les deux royaumes, l'Angleterre et l'Écosse. Vous avez à l'époque sur le trône d'Angleterre un souverain écossais, un Stuart, ce qui a permis en fait l'union entre les deux royaumes, et donc concrètement des relations personnelles entre les deux couronnes. Et on voit bien que d'un certain point de vue, le décès d'Elisabeth II à Balmoral est peut-être une aubaine, puisque
qu'elle est morte en Écosse,
les
Écossais étaient très fiers,
et que le rituel des funérailles
a
commencé en Écosse.
Frédéric de Natal, quand on dit que la reine était le ciment de ce royaume, est-ce que ça veut dire que la reine n'étant plus là, ce royaume est plus friable? Est-ce que c'est un peu ça, d'ailleurs, qu'on enterre peut-être aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni?
Oui, c'est possible, l'avenir va le dire. Après, vous savez, toutes les situations actuelles ne sont pas identiques. L'Écosse n'a pas la même manière de réagir que l'Irlande du Nord, ou même le reste du Commonwealth. Et même au sein du Commonwealth, vous êtes dans les Caraïbes, en Canada, en Australie, les points de vue vis-à-vis de la monarchie sont complètement différents. Donc c'est vrai que ça va être un défi majeur pour le roi Charles III, au même titre d'ailleurs que le gouvernement de Listreux s'est assuré la pérennité d'une monarchie et de son intégrité territoriale, et ce qui va être légué à William d'ici à peu près un quart de siècle, si on estime une durée de vie pour le roi Charles III. Après, comme l'a dit plutôt Esther, effectivement, c'est pas parce que ces pays vont quitter la monarchie qu'ils vont quitter le Commonwealth, bien au contraire.
Pensez à l'Écosse.
Alors, l'Écosse, pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, les sondages, en tout cas d'après en instant T, ne montrent pas un désir véritable des Écossais de quitter la monarchie. Ensuite, est-ce que, si, même s'il quittait, il conserverait, quelle institution il conserverait? On a souvent dit, en tout cas sous Elisabeth II, qu'il souhaitait rester sous le titre d'un monarque. Donc Charles pourrait rester parallèlement roi d'Écosse. En même temps, il ne faut pas oublier non plus que Charles III est certes roi d'Angleterre, d'Irlande du Nord, d'Écosse, etc., mais il est le chef du Commonwealth. Donc quelque part, ce n'est pas une antinomique.
Esther Lenneman, vous disiez, on a du mal à comprendre la monarchie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que l'Écosse veuille quitter le Royaume-Uni, alors que ça fait 300 ans qu'ils sont dedans, pardonnez-moi, mais c'est comme si la Bretagne disait demain, allez, moi, je quitte la France, je fais mon propre pays. Ça nous semble, pour nous, c'est folklorique, quoi.
Depuis des années, vous avez un Parlement en Écosse qui a de vrais pouvoirs, vous avez un gouvernement qui a de vrais pouvoirs. C'est un pays qui a autant d'autonomie que la Catalogne, ou peut-être plus en Espagne. C'est un pays où vous avez des nations. Le Pays de Galles est une nation, l'Écosse est une nation, l'Irlande du Nord est une nation. C'est vrai que là encore, nous sommes un pays centralisé qui avons écrasé nos langues, nos patois, nos langues régionales. Nous avons du mal à comprendre un système qui est réellement décentralisé.
Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette Info C'est Clair en édition spéciale pour l'enterrement et les funérailles d'Elisabeth II. France Info sera mobilisée toute la journée, notamment à partir de 10h30 dans 3 minutes avec Marianne Théolaire et Louis Laforge. Mais pour l'instant, je vous propose de revenir sur les 10 jours de deuil qui viennent de traverser les Britanniques avec ce sujet de Juliette Prigent.